Vous entendez un bruit étrange et apercevez quelque chose de terrible. Êtes-vous prêt à connaître la vérité? La chaîne télé, Témoin, c'est bon en crime. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Patrick Derry, joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez.
187 Cube Radio.
1-877-827-2346.
Alors, le ministre Simon-Jolin Barrette estimait au début du mois de juin que Québec devrait se gouverner en fonction de sa propre charte des droits et libertés plutôt que par la charte canadienne qui a été imposée au Québec il y a 40 ans, et il propose une conversation collective à ce sujet. Mais Monsieur Jolin Barrette peut-être pas tout dit de ses intentions, mais aussi dans ses explications, et on va en discuter avec Rémi Bourget, avocat, qui justement a signé un texte récemment dans Urbania, ce que Jolin Barrette ne nous dit pas. Bonjour Rémi.
Bonjour.
Qu'est-ce qu'il ne nous dit pas, Monsieur Jolin Barrette?
Ben, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs choses qu'il nous dit pas, mais je crois que la chose la plus importante qu'il ne nous dit pas, c'est que la Charte québécoise, bon, a été adoptée avant la Charte canadienne. Elle protège essentiellement les mêmes droits, même qu'elle en protège un petit peu plus. Et la Charte québécoise, le ministre Jolin Barrette la viole allègrement là, depuis qu'il est rentré en poste. Et il demande, en fait, il utilise la clause dérogatoire de façon préventive. Il l'a fait pour deux lois importantes là, à caractère identitaire, soit la loi sur la laïcité de l'État et la loi 96 pour la protection de la langue française. Alors, de dire que le Québec devrait se gouverner en fonction de la charte québécoise, c'est bien beau, mais encore faudrait-il qu'il le fasse. Présentement, le gouvernement ne le fait pas. Et quand M. Jolin Barrette mentionne là, que, bon, on a déjà par le passé dérogé, hein, on a soustrait l'ensemble des lois à l'application de la Charte canadienne, c'est vrai que le gouvernement Lévesque a fait ça après l'adoption de la Charte canadienne en 1982 pour protester contre le rapatriement de la Constitution qui s'était fait dans la signature du Québec. Mais quand le gouvernement Lévesque a fait ça, il n'a pas touché à la Charte québécoise. La Charte québécoise était restée en vigueur. Et c'est d'ailleurs en fonction de la Charte québécoise qu'on est venu invalider à l'époque là, l'interdiction d'affichage dans une autre langue que le français là en Cour suprême du Canada. C'est pas en fonction de la Charte canadienne, contrairement à ce que M. Jolin Barrette affirmait là devant l'Académie française, mais c'est bien en fonction de la Charte québécoise. Alors, c'est quand même surprenant un peu que M. Jolin Barrette, en tant que membre du barreau, là, n'ait pas cru bon de faire ces nuances-là dans ses interventions publiques, je crois.
Oui, des fois, il prend quelques raccourcis aussi sur les chiffres de l'immigration. Ça m'est arrivé de sursauter un peu. Mais pour revenir à ça, bon, vous dites il utilise les clauses dérogatoires de la Charte québécoise de façon préventive. Ça veut dire qu'il n'y a pas de test des tribunaux à ce moment-là.
C'est ça. Et ça me semble problématique. Hein? Dans une société libre et démocratique, au départ, là, quand on se reporte à l'époque des monarchies et tout ça, il y avait un monarque qui avait un pouvoir absolu. Bon, il y a quelques centaines d'années, on a commencé à vouloir limiter les pouvoirs du roi en incorporant des parlements qui avaient la capacité là, de contrôler le pouvoir exécutif. Nous, dans notre situation, à nous, quand on a un gouvernement majoritaire, là, le Parlement ne fait absolument rien pour limiter le pouvoir de l'exécutif, n'est-ce pas? Il y a une confusion entre les deux, là, au Québec.
Parce qu'il y a une ligne de parti, puis les députés votent en bloc.
Exact. Les députés vont voter en bloc là, pour ce que le gouvernement dit de faire. Alors, le pouvoir de contrôle que le Parlement est supposé d'exercer, ben, dans un Parlement majoritaire, ce qui est le cas au Québec, là, dans la grande majorité des élections, eh ben, il n'y a pas de contrôle. Hein? Alors, le seul contrôle qu'il puisse y avoir à ce moment-là, c'est le pouvoir judiciaire. Et là, avant même que le pouvoir judiciaire puisse se positionner, ben, on veut le tenir en échec en utilisant la clause dérogatoire. Le Québec, lorsqu'on a fait ça la dernière fois, après que la Cour suprême ait renversé là, certaines dispositions de la loi 101 sur l'affichage en se basant sur la Charte québécoise, comme je vous disais plus tôt, ben le Québec a été blâmé à l'ONU là quand quand il a utilisé la clause dérogatoire pour faire passer ses, ces restrictions-là aux droits de la communauté anglophone. Alors, mais évidemment, pour les citoyens du Québec, qu'est-ce que ça fait un blâme à l'ONU? Concrètement, ça fait pas grand-chose. Peut-être que le gouvernement du Québec n'aime pas ça, mais lorsqu'on utilise de manière préventive la clause dérogatoire, puis surtout là, on le fait de tout azimut, hein, on suspend la totalité des droits qui peuvent être suspendus dans les deux chartes. Alors, il y en a des droits là-dedans qui sont suspendus, un droit à la vie, droit à la liberté, le droit à la protection contre les fouilles abusives, les arrestations arbitraires. Alors là,
c'est quoi le lien, ça, avec une loi qui modifie la loi 101 puis qui, en principe, s'occupe de la langue? T'sais, pourquoi suspendre le droit à la vie?
C'est une excellente question, hein?
Parce que je veux pas prêter de mauvaises intentions, mais c'est un peu inquiétant, là.
Ben, c'est inquiétant comme citoyen parce que, vous savez, évidemment, la protection contre les fouilles abusives, on se rend compte que, par exemple, là, avec les pouvoirs d'inspection là qu'on donne à l'Office québécois de la langue française, ben là, on aurait comme des inspecteurs de l'OQLF qui auraient plus de pouvoir que des policiers qui enquêtent sur un meurtre. Là, c'est quand même assez spécial. Mais bon, on se rend compte qu'évidemment, cette loi-là porte probablement pas atteinte au droit à la vie. En tout cas, si c'est le cas, je sais pas comment. Mais que le gouvernement vienne suspendre ces droits-là avec autant de désinvolture, c'est ça qui devrait nous interpeller dans une démocratie. Puis ça fait partie d'un mouvement qu'on voit pas juste au Québec, mais qu'on voit un petit peu partout, là, un mouvement où on vient fragiliser les notions de droits fondamentaux puis de contre-pouvoirs qui sont essentiels dans un état de droit. Puis on pense que, bon, ça ira pas plus loin que le droit à la religion, que des droits linguistiques. Mais quand on regarde au sud de la frontière, on se rend compte que des droits qu'on considérait comme acquis depuis 50 ans, ben encore là, qu'est-ce qui est venu faire la Cour suprême américaine? On est venu dire, c'est aux élus de décider pour ça, c'est pas aux juges. Alors, les élus, là, il faut vivre dans un monde de licorne pour penser que les élus ne peuvent jamais se tromper, là. Et quand ils peuvent se tromper, et que ces erreurs-là ont un impact sur les droits fondamentaux, ben normalement, depuis 1982, on avait nos chartes des droits qui venaient permettre aux citoyens de contrôler ces erreurs-là. Mais là, la conversation collective à laquelle on nous convie, ben, à laquelle le ministre nous convie, eh ben, c'est à l'effet de nous enlever ce mécanisme de protection-là, et ça, c'est très inquiétant.
Mais M. Legault et M. Jean Barrette, ils vont vous dire, écoutez, les sondages sont de notre côté. Il y a à peu près les deux tiers des Québécois sont d'accord, le plus ou moins, là, avec les lois 21 puis la loi 96, peut-être un peu plus dans le cas de la loi 96. Donc, il n'y a pas de problème. La majorité, elle est d'accord.
Et ils ont probablement raison que la majorité est d'accord. Mais est-ce que ça veut dire que la majorité a toujours raison? Vous savez, il y a quelques dizaines d'années, on interdisait, par exemple, aux femmes d'accéder aux barreaux. Et on interdisait aux femmes d'avoir le droit de vote. On interdisait aux homosexuels de se marier. Quand la Cour suprême du Canada a légalisé là, le mariage homosexuel, c'est à cause des chartes que c'est arrivé. Parce que la majorité n'était pas d'accord avec ça à l'époque. Une fois que c'est entré dans les mœurs, une fois que... Il y a un jugement aussi de la Cour qui est quand même la Cour suprême du Canada, les chartes des droits, les citoyens savent vouent un certain respect à ça. Quand les tribunaux viennent dire que d'interdire le mariage homosexuel, ça vient violer les chartes des droits, là, l'idée commence à percoler dans la population puis à faire son chemin. Puis aujourd'hui, c'est une idée qui jouit d'un soutien majoritaire, mais c'était pas le cas à l'époque. Puis c'est pour ça que les gouvernements, personne ne voulait faire campagne pour le mariage homosexuel. Jean Chrétien a demandé un renvoi à la Cour suprême sur cette question-là, qui était une patate chaude pour lui. Puis une fois que la Cour suprême s'était positionnée, eh bien, à ce moment-là, on est allé de l'avant puis on l'a légalisé parce qu'on voyait que de maintenir l'interdiction, ça venait violer des droits. Alors, tu sais, s'il y avait eu un jugement de la Cour d'appel, ou quand il y aura un jugement de la Cour suprême, peut-être éventuellement, qui va dire vous savez quoi, la façon dont le gouvernement utilise la clause dérogatoire, c'est contraire à l'esprit de la Constitution, c'est inconstitutionnel. Si on permet à un juge de venir suspendre une loi puis de dire qu'elle viole les droits, est-ce que l'appui va rester à 66% dans la population? Ça, c'est dans tous les sondages que j'ai vus sur cette loi-là. Lorsqu'on mentionnait, dans l'éventualité où, par exemple, la Cour d'appel du Québec indique que ça viole la liberté de religion, êtes-vous toujours, est-ce que vous la supportez toujours? Puis il y avait toujours un pourcentage important de gens qui disaient, ah, ben, vous savez, même si moi, je suis en faveur de ça, puis on vient démontrer que ça viole des droits, ben là, ah, le soutien venait, était affecté substantiellement.
C'est intéressant ce que vous dites. Je vous posais une autre question à aller un peu plus loin. Mettons là que qu'on arriverait à la conclusion que, par exemple, pour pour maintenir l'équilibre linguistique, puis bon, on sait que la situation du français, on est sans dire qu'on est cerné, là, ça va toujours demander là, une certaine précaution. Mettons qu'on arrive à la conclusion que la seule façon de faire, c'est de brimer des droits linguistiques qui sont protégés par la charte, et en supposant que la charte serait en vigueur, ces articles-là, ça serait quoi la solution?
Ben, vous savez, il n'y a aucun droit qui est absolu, puis ça, des questions importantes à débattre dans une démocratie, de voir où on devrait tracer la ligne. Ce que Jolin Barrette nous dit, c'est qu'on devrait tracer la ligne là, selon la préférence du gouvernement. Il ne devrait pas y avoir aucune autre considération. Et ce que moi je pense, et que d'autres juristes pensent aussi, qui ont un intérêt dans ce domaine-là du contrôle de constitutionnalité des lois, du contrôle des pouvoirs du gouvernement, c'est que si le gouvernement veut violer des droits, il devrait être en mesure de le justifier de façon rationnelle. Si on donne un exemple, par exemple, le niqab, il y a un paquet de situations dans lesquelles il est souhaitable et acceptable pour un gouvernement de venir tempérer le droit à la liberté de religion pour permettre, par exemple, l'identification d'une personne ou la communication ou la sécurité dans tel ou tel contexte. T'sais, le droit n'a pas à être absolu. Puis si le gouvernement, par exemple, prévoit de forcer une personne à découvrir son visage le temps de s'identifier, tout ça, mais ça passe le test des tribunaux à ce moment-là, OK? Mais encore faut-il que le gouvernement viennent remplir son fardeau de preuve. Tu sais, il y a un paquet de droits qui, des fois, nous laissent perplexes parce que nous, on n'en bénéficie pas. Tu sais, pour une personne qui a ses deux bras et ses deux jambes, c'est dur à comprendre que des fois, on doit dépenser de l'argent pour faire des accès pour les personnes handicapées, par exemple. Tu sais, c'est une fois qu'on se retrouve dans la position de la personne minoritaire qu'on voit l'importance de la protection de ces droits-là. Puis si le seul la seule loupe au travers de laquelle on regarde les droits des minorités, c'est la préférence de la majorité, ben là, on n'a pas appris les leçons de l'histoire du 20e siècle. Là.
Je veux mentionner un dernier passage de votre texte, moi, qui m'a frappé, parce que si on dit toujours le Québec, c'est une société qui est progressiste. Vous dites que en matière de droits fondamentaux, la façon dont le gouvernement actuel suspend les chartes, c'est qu'il adopte des positions qui sont plutôt commune à celle de partis conservateurs.
Absolument. Absolument. Regardez quand on regarde le raisonnement qui est à la base d'une loi, comme par exemple la loi 21, là, hein, on dit, moi, je suis parent d'un enfant et je veux pas que mon enfant soit exposé à une femme voilée à l'école. Ça me dérange de voir ça. Puis on demande même pas de prouver, parce que de toute façon, le gouvernement n'était pas capable de le prouver. On demande pas de prouver qu'il y a du prosélytisme, qu'on essaie. Mais c'est simplement là, l'exposition à une différence hein, qui vient justifier ici la restriction à un droit, là, soit celui de porter un symbole religieux. Ça, là, c'est quoi la différence entre ce raisonnement-là et celui, par exemple, des parents d'une commission scolaire en Ontario qui se sont adressés à la Cour suprême il y a quelques années parce qu'ils voulaient faire enlever les références à des familles homoparentales dans les manuels scolaires, en disant, moi, ça me dérange que mon enfant soit exposé à ça. Tu sais, de pas vouloir être exposé à une différence. Alors, la préférence de la majorité qui est mal à l'aise en voyant quelqu'un d'une minorité, que ce soit une minorité linguistique, sexuelle, religieuse ou autre, normalement, dans notre système, là, c'était pas suffisant pour venir invalider un droit. Donc, on demandait au gouvernement de le justifier pour un motif raisonnable, par exemple la communication, la sécurité ou autre. Mais là, on veut donner carte blanche à un gouvernement pour dire, ah ben regarde, si la majorité n'aime pas ça, c'est assez pour l'interdire. Ça devrait pas fonctionner comme ça.
C'est très intéressant et ça va être pertinent vu qu'on s'en dirige sans doute vers un autre gouvernement largement majoritaire. Rémi Bourget, je rappelle que vous êtes avocat, signataire d'un texte récent d'Urbania, ce que Jolin Barrette ne nous dit pas. Merci beaucoup.
Ça m'a fait plaisir.
Bonne fin de journée.